mai 2011, l'association Fait Maison, association qui vise à créer un fournisseur d'accès Internet associatif, a organisé sa première conférence sur le thème « La neutralité d'Internet ». Avec la participation d'Axel Simon et de Jérémy Zimmermann, ce dernier que nous accompagnons dans la rue.
Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
L'idée qu'Internet peut faire changer les choses et que Internet nous appartenant à tous comme un bien commun que l'on partage et que l'on aime, nous permet de changer les choses. Voilà. On a tous ça entre les mains.
Et c'est une idée qui a germé il y a longtemps ?
C'est au fil du temps, découvrant Internet dans les années 95-96, pour m'apercevoir que ça changeait ma vie, que ça changeait ma façon d'apprendre, que ça changeait ma façon de socialiser et de voir le monde. Et puis de m'apercevoir qu'à mesure que des gens autour de moi découvraient Internet, eh bien ça leur faisait à peu près le même effet. Comprendre que cet outil était sans doute le plus formidable qui avait été inventé par l'humanité depuis la presse imprimée de Gutenberg, ce qui devient une banalité affligeante de dire ça aujourd'hui. Et un beau jour, s'apercevoir que les gouvernements commençaient à coup de législation à y porter atteinte, en tout cas porter atteinte à la façon dont on pouvait développer ce réseau et y participer. Et ayant par ailleurs découvert les logiciels libres, et là encore leur potentiel pour le partage de la connaissance et l'amélioration du réseau, des ressources et de la société dans son ensemble. L'un allant avec l'autre, il y a un moment où j'ai créé la Quadrature du Net avec 4 autres cofondateurs.
D'être actif, c'est de créer une structure ?
Non, justement, la Quadrature du Net, c'est une non-structure. On a fait ce choix-là dès le départ. On était les 5 cofondateurs, on n'est plus que 4 en activité aujourd'hui. Mais les 5, on avait un certain background pour écorcher la langue de Molière en matière d'activisme et de défense de ces sujets-là. Avec des profils différents, mais une vision commune d'un Internet ouvert et du partage de la connaissance. On a fait ce choix d'une non-structure, donc sans président, sans membre, sans conseil d'administration, sans assemblée générale, pour éviter les lourdeurs administratives et les lourdeurs décisionnelles, et aussi pour donner l'exemple que n'importe qui peut le faire et qu'il suffit littéralement... De sa bite et son couteau, d'une connexion internet, d'un petit peu d'huile de coude, de quelques potes et de beaucoup travailler pour y arriver.
C'est du contre-lobbying ou une autre forme de lobbying ?
Le contre-lobbying, c'est un de nos modes d'action, mais avant tout, moi je vois la Quadrature du Net comme une sorte de caisse à outils citoyenne. On produit des outils, que ce soit des outils analytiques, des dossiers, des synthèses, des communiqués de presse, etc., ou des outils web. Ça, par exemple, Mémoire politique, qui est notre annuaire des députés, des eurodéputés, dans lesquels on les note en fonction de leur vote. Et donc, on crée des outils pour permettre à tout le monde, un, de comprendre les enjeux, de comprendre les processus législatifs et non législatifs qui attaquent nos libertés sur Internet, et deux, de participer dans le débat démocratique et essayer de faire changer les choses. Donc, notre mode d'action, plutôt que du lobbying ou du contre-lobbying, c'est de faire comprendre à tous les citoyens qu'ils ont ce pouvoir démocratique, ce pouvoir citoyen entre leurs mains, de à la fois rendre les élus plus responsables, de les mettre face à leurs responsabilités, également ce pouvoir de les informer et de temps en temps d'augmenter le coût politique de la prise de mauvaises décisions. En gros, grâce à Internet, on peut exercer sa citoyenneté entre deux votes, sans avoir à passer par les partis politiques ou par les médias traditionnels, de sa pleine initiative.
Quand on parle neutralité de l'Internet, on parle de quoi ?
Neutralité du net, il n'y aurait même pas de question, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est l'Internet que l'on connaît. La neutralité du net, c'est l'Internet tel qu'on l'a encore un petit peu aujourd'hui et tel qu'on l'aime, c'est l'Internet neutre. Une définition de la neutralité du net qui est basée sur l'utilisateur, dit que la neutralité du net, c'est ce qui fait que chacun peut accéder à tous les contenus, services et applications d'Internet et peut en publier des nouveaux. C'est ce qui fait que Internet est universel, que vous soyez au Canada, en Ouzbékistan, en Ouganda ou en France, vous avez accès à tous les contenus, services et applications. C'est universel, donc c'est Internet. Du point de vue de l'opérateur, ça veut dire qu'il n'y a pas de restriction, pas de discrimination qui est appliquée en fonction de qui émet, en fonction de qui reçoit ou en fonction du type d'information transmise. On ne va pas dire « Ah non, ben, YouTube, en fait, c'est plus accessible. Ah non, vous, monsieur, là-bas, non, vous n'avez pas le droit d'accéder à tel service. » Ou encore dire « Bah, tel site, il sera un petit peu plus lent que les autres. » Parce qu'on l'aime pas ou parce que nous, opérateurs, on a un business concurrent. Non. Si un opérateur fait ça et discrimine le trafic de quelque façon que ce soit, il porte atteinte à cette neutralité du net et irrémédiablement, il porte atteinte à la liberté de communication qui est une liberté fondamentale. Donc pour ça, nous on dit, lorsqu'un opérateur viole la neutralité du net, il doit être sanctionné.
Toutes les applications peuvent fonctionner sur Internet sans être jugées en amont. Ça donne beaucoup, beaucoup de possibilités pour l'innovation. C'est-à-dire que si moi, demain, j'arrive avec une application incroyable, je peux la lancer de mon garage, et si les gens apprécient cette application, ou apprécient ce site web, ils pourront s'y connecter facilement, ils pourront y accéder comme ils accèdent à un autre site, et ça donne un terrain de départ équivalent pour tout le monde. À partir du moment en fait, où on a un nouveau protocole qui apparaît, qui utilise Internet, tant qu'il respecte les règles de base, c'est quelques règles simples, qu'il est documenté et qu'on sait comment il fonctionne, tout le monde peut s'en servir et tout le monde peut y accéder. C'est pour ça que, depuis le début d'Internet, on a vu de nouveaux protocoles apparaître. C'est pour ça que quand il y a une dizaine d'années, tout le monde a commencé à utiliser MSN, c'était possible, parce qu'on pouvait rajouter un nouveau protocole par-dessus sur Internet. C'est pour ça que maintenant, on voit, quand Skype s'est lancé, on a pu avoir de nouveau quelque chose de nouveau qui passait par-dessus. C'est parce que tout le monde pouvait utiliser Internet comme infrastructure et rajouter des protocoles, tant que ces protocoles utilisent des... sont compréhensibles et lisibles de chaque côté.
Tout ce qui est analyse des données, c'est tout ce qui met à plat et tout ce qui met en danger la neutralité du net ?
Non, ça c'est une autre question à mon avis. L'analyse des données peut être faite de façon purement statistique et anonyme, donc légitime. Là, la question que vous évoquez, c'est plutôt celle de la protection des données personnelles. Après, on peut parler de l'analyse du trafic, donc l'analyse des données échangées. Où là, effectivement, pour dire lui veut se connecter à YouTube et YouTube, on veut le faire ramer, etc., il faut entrer dans le contenu des communications d'une façon un petit peu plus intrusive. Là, on espère que, effectivement, que les lois de protection des données personnelles ou que tout simplement le code des postes et télécommunications, qui dit déjà qu'il est interdit d'intercepter des communications privées, pourra être invoqué dans des cas comme ça. Après, l'agrégation de données personnelles, alors ça dépend encore une fois, si on parle des données personnelles des individus sur Internet, par exemple sur des sites comme Google ou Facebook ou des choses comme ça, ou si l'on parle des données échangées. Et là pour le coup, marchandiser les données échangées, à ma connaissance c'est quelque chose qui n'existe pas encore, ou là si les opérateurs s'amusaient à faire ça, je pense que ça ferait du boucan, que les gens comprendraient vite et que... On arriverait peut-être à les faire changer.
Quand on a un système qui est mis en place, tout le danger est dans l'utilisation qu'on fait du système. Et si le système n'a de compte à rendre à personne, on ouvre la porte à toutes les dérives. Et c'est en soi, sans ça que nous on s'oppose très fondamentalement à toutes les mesures de filtrage extrajudiciaire, parce que ça bafoue le droit à un procès équitable, on n'a pas de contradiction, on n'a pas l'occasion de se défendre, et les potentiels de dérives sont absolument... gigantesque.
Il n'existe pas d'outil législatif aujourd'hui qui parle de cette question de la neutralité du net, ou qui permette en tout cas de faire changer les comportements des opérateurs lorsqu'ils portent atteinte à la neutralité du net. Aussi, ce que l'on dit, c'est que quand un opérateur restreint votre connexion, quelle que soit la nature de cette restriction, que ce soit dire vous n'allez pas pouvoir... un exemple très, très concret d'opérateur qui porte atteinte à cette neutralité du net, c'est ce que font les opérateurs de téléphonie mobile. En disant dans leur contrat vous n'allez pas utiliser de voix sur IP, par exemple le logiciel Skype, ou vous n'allez pas utiliser de logiciel peer-to-peer, vous n'allez pas pouvoir utiliser de services vidéo, sauf les services vidéo de la marque, sur votre internet mobile, enfin votre pseudo-internet mobile, alors ils violent la neutralité du net. Ben nous, ce qu'on dit, c'est que dès qu'il y a une restriction de ce genre, alors invariablement, on porte atteinte à la liberté de communication. Et donc porter atteinte à la liberté de communication, c'est porter atteinte à une liberté fondamentale. Il est du devoir du législateur d'intervenir. On ne va pas laisser, si un contrat, j'ai pas d'exemple comme ça, mais si en vous vendant une voiture, on vous disait, on vous vend la voiture, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser tel jour à telle heure, ça violerait votre liberté de mouvement. Si on vous disait, on vous vend un téléphone, mais on se garde le droit d'écouter tout ce que vous dites, ça viole votre vie privée, donc c'est des comportements qui sont interdits. Et bien nous, on dit pareil. Pareil avec la neutralité du net. Si on vous vend un internet qui est restreint, on viole votre liberté de communication, donc il est du rôle du législateur de faire changer ses comportements, de pénaliser l'opérateur qui se livre à de telles pratiques.
On est en train de se mettre en place un accord multilatéral qui s'appelle ACTA, qui est supposé être un accord anti-contrefaçon. Donc l'idée, c'est juste de faire en sorte que les faux sacs Vuitton ne passent pas la frontière et n'arrivent pas en France. Parce que ça, c'est l'idée. Mais déguisé derrière un simple accord anti-contrefaçon, donc pour les biens contrefaits matériels, ils ont commencé à introduire plein de choses sur Internet et sur le réseau et sur les biens non physiques, sur les biens immatériels. Donc de plus en plus, donc dans ACTA, on a des choses assez incroyables, comme par exemple le but fondamental d'ACTA est de dire aux opérateurs, vous allez regarder ce qui passe sur vos réseaux et vous allez enlever toutes les œuvres de l'esprit qui passent, qui ne sont pas autorisées. Donc vous allez faire police du copyright privé sur vos réseaux. Et donc ça s'est négocié en sous-main pendant des mois jusqu'à ce que ça soit révélé. On va en avoir probablement la signature bientôt au niveau européen. La Commission européenne sera, et par la suite donc le Parlement européen sera amené à se prononcer dessus. Il faut absolument que l'Europe refuse ce traité qui mettrait donc en place la censure d'Internet, le filtrage d'Internet au nom des ayants droit, donc les polices privées d'Internet, les polices du copyright, et qui est un contournement de la démocratie assez énorme.
Bonjour. Est-ce que vous pensez que les entreprises ou les gouvernements peuvent être autorisés à restreindre la connexion Internet?
Bah, ça serait pas cool en tout cas.
Restreindre, mais comment ça? Au niveau des débits, au niveau de quoi?
Restreindre par exemple en interdisant d'accéder à certains services, en priorisant certains sites par rapport à d'autres.
C'est le cas, non? Ça a été lancé, non, déjà, non?
Dans mon entreprise, par exemple, j'ai pas accès à certains sites.
Votre entreprise, pour le coup, c'est pas Internet, c'est le réseau de votre entreprise qui...
Ah si, Internet, si, j'ai des limitations sur des sites.
Ouais, mais là, c'est le réseau de votre entreprise, donc votre entreprise fait ce qu'elle veut avec son réseau. Non, par exemple, je pense à un opérateur qui vous dirait, aujourd'hui, Dailymotion, ça va aller moins vite, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il est du rôle du gouvernement d'intervenir dans ces cas-là?
Bah écoutez, à partir du moment, enfin... Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas, je trouve ça... Enfin...
Ah, si, c'est gérant pour les... enfin, c'est gênant pour l'utilisateur. Enfin, je sais pas, c'est nous qui allons en payer les conséquences. Non, mais c'est vrai, c'est le cas déjà. Ils ont comment... Enfin, il y a déjà certains opérateurs qui ont commencé à limiter les sites, justement, comme YouTube et tout, à certains horaires, et en favoriser d'autres, il me semble. Donc, si, pour moi, c'est un problème, et enfin, je trouve pas ça normal.
Moi, ça me choque pas si c'est pour limiter les téléchargements illégaux. Donc, si c'est pour limiter, restreindre les sites on télécharge illégalement, pourquoi pas, oui.
Après, ça débat là. Non, je sais pas.
Bah, après, c'est... Dans les télécoms, le réseau, du coup...
Après, je pense que c'est un moyen pour eux de gérer leur débit et que si jamais il y a trop de monde qui se connecte en même temps, si ça fait planter les serveurs, après, de toute manière, il n'y aura plus personne qui pourra y accéder. Donc,
Vous, c'est une parole de professionnel.
Ce qu'on disait, c'est... Enfin, on travaille là-dedans, donc...
Doit intervenir dedans, ça, je sais pas.
Demandez à la demoiselle...
Ah non, mais je disais que moi, en tant qu'utilisatrice, c'était gênant, enfin voilà, quoi, ce genre de...
Est-ce que ça vous semble évident que la connexion Internet aujourd'hui, ça vous permet d'exercer vos libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, la liberté de communication, ou des choses comme ça?
Oui, ça me paraît évident, oui.
Donc, si un opérateur restreignait votre communication Internet, est-ce que par là, il n'y aurait pas une restriction à votre liberté de communication?
Je pense que même si ça restreint, on peut toujours l'utiliser. Donc en soi, ça restreint pas totalement ma liberté d'expression et de communication, mais... Voilà.
Intéressant. On a le point de vue de l'utilisatrice et le point de vue des opérateurs, apparemment.
On va parler d'opérateurs, c'est un grand mot. Hein.
Vous êtes vigilante?
Oui, je suis vigilante désormais, maintenant que je me suis rendu compte à quel point... il pouvait y avoir des dérives. Maintenant, oui, je suis plus vigilante qu'au début où je me suis justement créé un profil Facebook et tout.
Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience?
La télé, les infos, c'est comme ça qu'on est informé de certaines dérives et voilà. Et puis après, le bouche à oreille aussi, on s'inquiète un petit peu de ce que les gens peuvent voir sur nous et puis comment ça peut être utilisé à mauvais escient.
Vous avez jamais eu de retour, je sais pas, d'un employeur qui aurait consulté la page ou...
Si. Avant un entretien, je savais que ma page avait été consultée par certains collègues et recruteurs.
Vivre sans adhérer à un réseau social, c'est possible aujourd'hui ?
Oui, c'est possible, on peut... Si, oui, heureusement que c'est possible. Oui, tout à fait.
Bravo citoyenne. Ça montre qu'il est utile de faire ce travail d'information et que, voilà, non, je peux pas... Sans jugement aucun ou quoi, il semble que cette demoiselle qui prétend avoir aucune... ne pas être professionnelle ou quoi, a une vision claire de l'impact d'Internet sur les libertés fondamentales et sur la protection de la vie privée. Là, je suis d'accord, son brevet de citoyenne numérique.
C'est une mission transpartisane qui a été menée par Corinne Erhel, qui est députée PS, et Laure de la Rodière, qui est députée UMP. Elles ont travaillé ensemble pour faire un compte-rendu. Tout un rapport sur la neutralité d'Internet. Elles sont arrivées à des conclusions que nous on a trouvées très positives, puisqu'elles proposent plusieurs choses. Donc elles proposent, un, d'inscrire le principe de neutralité dans la loi. Donc simplement de dire que la neutralité des réseaux, c'est un principe fondamental qui doit donc s'inscrire dans la loi, qui doit être respecté, on ne peut pas le contourner. Que si on veut le contourner, à la limite, admettons, mais dans ces cas-là, on n'a plus le droit d'appeler ça Internet. Donc ça, c'est quelque chose qui personnellement m'a beaucoup plu.
Jérémy Zimmermann, cofondateur de la Quadrature du Net, et l'invité du magazine.
En tout cas, c'est intéressant parce que les deux arguments des gens qui disaient avoir travaillé dans les télécoms, un, c'est si c'est pour empêcher les téléchargements illégaux, alors c'est légitime, montre que la propagande des industries du divertissement est extrêmement puissante, parce que ces téléchargements, enfin dits illégaux, en tout cas ce partage de fichiers, pour employer un terme plus neutre, comme je vous l'ai dit, même l'étude Adopi montre que ceux qui partagent le plus dépensent le plus. Donc son caractère ultra dangereux n'est pas nécessairement avéré. De la même façon, on regarde que les bénéfices opérationnels nets de Universal Music ou de groupes comme ça sont en constante augmentation. Donc il n'y a pas non plus de quoi pleurer. C'est vrai que les ventes de CD et de DVD se cassent la figure. Mais les ventes numériques, la vidéo à la demande, les sonneries téléphoniques, les concerts et les entrées en salle de cinéma qui viennent pour la 4e année consécutive d'augmenter jusqu'à atteindre des records des années 60 sont en augmentation. Donc ça, c'est un point intéressant. Un autre, l'autre qui disait, oui, si pour les opérateurs, c'est justifié parce que leur débit, sinon, serait limité, l'infrastructure s'écroulerait, montre une logique des opérateurs qui disent, ah ben non, nous, on va arrêter d'investir dans l'infrastructure, et du coup, comme tout le monde va être la tête sous l'eau, on va pouvoir restreindre l'accès. Et ça montre que ces mêmes opérateurs qui versent des milliards de dividendes chaque année à leurs actionnaires choisissent d'arrêter d'investir dans l'infrastructure, alors qu'en réalité c'est pour ça qu'on les paye. Et donc là, ça montre bien que s'il n'y a pas une intervention du législateur pour dire hey, les petits gars, vous n'avez pas le choix entre investir et ne pas investir, vous êtes là pour investir, et les restrictions sont hors la loi.
Merci à Jérémy Zimmermann, cofondateur de la Quadrature du Net. Merci à Sébastien, Coralie et Jérémy pour leur libre participation à ce reportage, réalisé à l'occasion de la première conférence organisée par l'association Fait Maison, conférence animée par Axel Simon sur le thème « La neutralité du net ».
Certes, des lobbies en face qui essayent de leur dire que la neutralité de l'Internet, il ne faut pas, c'est dangereux, ça empêche de faire des réseaux rapides, etc. Mais d'autre côté, on a beaucoup de gens qui ont compris que la neutralité de l'Internet, c'est juste fondamental, c'est ce qui fait qu'Internet est ce qu'il est maintenant, c'est ce qui fait qu'Internet a pu devenir ce qu'il est maintenant, et que si on perd la neutralité, on perd tout ce qu'Internet peut devenir, on est en train, quand on voit ce qui s'est développé sur ces 15-20 dernières années, on peut imaginer quelque chose de pareil mais en 10 fois plus important dans les 15-20 prochaines années. Si on perd la neutralité, on perd ça.